autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur la beauté de l'univers, à toutes les échelles observées et observables par nos puissants télescopes. Pourquoi l'univers est-il si beau ? Question qui fascine les poètes, mais aussi les astronomes et les astrophysiciens et tous les humains que nous sommes éblouis par les milliards de milliards d'étoiles, de planètes et de galaxies qui se dévoilent quasiment à l'infini. Et si la réponse à cette question de la beauté sidérale de l'univers était à chercher dans la lumière, la plus belle ruse de la lumière, pour reprendre le titre de l'ouvrage de notre invité, l'astrophysicien David Elbaz, qui nous fait partager ses recherches et ses fulgurances sur l'ordre, le désordre et la lumineuse beauté du cosmos qui va encore se dévoiler plus loin, dans le temps comme dans l'espace, avec le lancement tant attendu, tant espéré, peut-être le 22 décembre prochain, du fameux James Webb Télescope, le successeur de Hubble, le plus grand télescope jamais lancé avec à son bord, l'instrument d'imagerie MIRIM, piloté par David Elbaz et toute l'équipe du laboratoire d'astrophysique, instrumentation et modélisation du CEE, qui permettra donc d'observer les galaxies les plus lointaines, les trous noirs, l'atmosphère des exoplanètes, de remonter aux origines et qui sait, de trouver d'autres traces de vie dans l'univers. Sacré programme autour de la question « Pourquoi l'univers est-il si beau ? Est-ce une ruse de la lumière ?» Bienvenue sur Terre.
C'est quoi cette lumière juste au-dessus de moi ? C'est quoi ? Cette lumière là par-dessus les toits, par quel mystère tient-elle ? Qui l'a mise là ? C'est quoi cette lumière ? Réponds-moi.
Je ne sais pas si vous pourrez répondre à Camille, David Elbaz, bonjour.
Bonjour, Caroline Chowski.
Merci en tout cas d'être en direct avec nous pour une double actualité, j'ai envie de dire lumineuse évidemment. L'apparition de votre ouvrage, La ruse de la lumière, chez Odile Jacob. Ouvrage fulgurant, sidérant, je dois dire, dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, dans lequel David Elbaz vous apportait des réponses vertigineuses à la question du sens de l'univers et à l'interrogation du poète et académicien François Cheng. L'univers aurait-il pu ne pas être beau ? Mais ne divulgâchons pas tout trop tôt, parce que vous êtes aussi, et d'abord peut-être David Elbaz, astrophysicien au CEA, au laboratoire qui a conçu, créé l'instrument MIRIM d'imagerie, qui est piloté, dirigé, son responsable est Pierre-Olivier Lagage. L'instrument d'imagerie MIRIM embarqué à bord du tant attendu James Webb Télescope, qui devrait révolutionner nos connaissances sur les origines de l'univers, sur la possibilité de traces de vie, d'autres formes de vie ailleurs. Donc lancement prévu, a priori, le 22 décembre. On est un peu dans le doute là. Vous êtes quoi ? Vous devez être sur les charbons ardents, j'imagine.
Oui, oui, tout à fait. On attend ça depuis tellement longtemps. Il faut savoir que l'idée même de ce satellite a émergé au début des années 90, au moment même où on lançait le télescope spatial Hubble dont on vient de fêter les 30 ans. Donc c'est vraiment une longue attente pour l'instrument ultime de l'astronomie pour plonger aux confins de l'univers.
C'est ça, l'instrument ultime de l'astronomie. Vous dites qu'il va vraiment ouvrir d'autres fenêtres comme Hubble nous a montré l'univers comme on ne l'avait jamais vu.
Voilà, on peut dire en quelque sorte que Hubble nous a dévoilé l'univers visible. Le James Webb va nous dévoiler l'univers invisible. Il va essayer de remonter au plus loin dans l'histoire de l'univers, remonter pour collecter la lumière des premières sources de lumière de l'univers et pour voir, comprendre si nos théories sont correctes jusqu'au bout de l'univers. Quand on a vu des planètes, par exemple, dans notre système solaire, aux confins du système solaire, on s'est demandé si les lois qui fonctionnent sur Terre fonctionnaient là-bas. Comme ça ne fonctionnait pas bien, on s'est dit qu'il fallait les changer. Puis après, on s'est rendu compte que c'est parce qu'il nous manquait quelques planètes qu'on n'avait pas vues qui influençaient. Et maintenant, on va se poser la question de savoir si ce qui se passe sur Terre et ce qui se passait il y a 13,8 milliards d'années, c'est la même chose. On va voir, en quelque sorte, nos origines.
Est-ce que on est sûr qu'il va bien partir? Parce qu'il est quand même très attendu, ce grand télescope. En même temps, c'est le lancement de tous les dangers.
Oui, alors il était prévu pour être lancé le 18 décembre. Et puis, il y a eu une petite secousse au moment de son transport, probablement pas grand-chose, qui fait qu'on prévoit de lancer maintenant le 22 décembre. Mais on est très, très frileux. Si on s'aperçoit qu'il y a le moindre risque, alors peut-être qu'on le décalera d'un mois. Mais vraiment, on s'attend à ce qu'il soit lancé d'ici peu. Donc vraiment, on attend. Après, le risque, bien sûr, c'est comme tous les satellites, le lancement. Mais pour le James Webb, c'est d'autres risques parce que lui va déployer un miroir dans l'espace, le plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace, qui est sous la forme d'une mosaïque.
C'est pas cette petite mosaïque-là que vous arborez comme broche sur le rebord de votre chemise?
J'ai un pin's du miroir du James Webb que j'ai sur moi, qui est une sorte d'icône.
Magnifique.
Voilà, qui ressemble un peu à une ruche.
Oui, il y a une ruche, à une fractale, à quelque chose de...
Alors c'est un peu magique parce que quelque part on se dit qu'on essaie de trouver l'unité, de remonter à nos origines, etc. Avec, en réconciliant la multiplicité et la complexité de l'univers. Et puis on utilise pour ça un miroir cassé en morceaux, qui est avec lequel on va essayer de remettre tout ça en place pour essayer de raconter une histoire, l'histoire de nos origines.
Et un miroir cassé en morceaux, on va y revenir, hein, oui. Parce que c'est ce miroir cassé en morceaux qui va reconstituer l'origine.
Oui, tout à fait. C'est un des mystères de. D'ailleurs, c'est ce que l'abbé Georges Lemaître. Quand il s'est interrogé sur l'univers et qu'il a découvert le fait que l'univers avait une histoire d'un point de vue scientifique avec l'expansion de l'espace, il a fait exactement ce raisonnement. Il s'est dit, puisque les vers se cassent en 1000 morceaux, si je remontais le temps, je verrais les morceaux se remettre ensemble. L'univers est fait de 1000 morceaux qu'on appelle des atomes, des galaxies, des étoiles. Si je remontais le temps, ils se remettraient ensemble et ils formeraient une sorte d'atome primitif, le Big Bang. Et toute l'histoire entre cette époque et maintenant, c'est celle-là qu'on essaie de reconstruire. Il résumait ça en disant « Mundus est fabula », le monde est une histoire, et il ajoutait que chaque génération s'efforce d'améliorer. Et donc on est là, une nouvelle génération qui va tenter de mieux raconter, comme des conteurs, l'histoire de l'univers, parce que c'est jamais qu'une histoire qui va tenter de coller au plus près de la réalité, mais on sait bien que la réalité nous échappe toujours.
Et que c'est presque de la science-fiction, hein, oui. Quand on imagine ces morceaux de miroir brisés qui vont retourner dans le temps et se reconstituer. On va y revenir autour de la question jusqu'où l'univers nous dévoilera justement son infinie beauté. Mais d'abord, nouvelle question pour vous, David Elbaz, soulevée par une astrophysicienne que vous connaissez bien, Athéna Kousténis, spécialiste de Mars, de Titan et de l'étude de l'atmosphère des planètes et des exoplanètes. Elle est en quête de traces de vie ailleurs et elle a une question pour vous, on l'écoute.
Alors David, comment est-ce que tu imagines l'héritage de Hubble, qui a été un outil extraordinaire en astronomie, avec le James Webb? Je sais qu'il y a des nouvelles choses et des améliorations, mais est-ce que tu peux me donner une idée de ce que toi tu attends, surtout après le Hubble?
Votre réponse, David Elbaz.
Alors, c'est une très bonne question qui a été posée par Athéna Kousténis, parce que le Hubble, vraiment, a quand même révolutionné notre compréhension de l'univers. Il a pu mesurer avec une précision très fine l'âge de l'univers, l'expansion de l'univers. Il a pu voir qu'il y avait des trous noirs au cœur de chaque galaxie. Avant, on pensait que les trous noirs étaient des objets exceptionnels, les trous noirs galactiques, et il a démontré qu'ils étaient partout. Donc c'est révolutionnaire. Il a révélé la forme des galaxies, et il a permis de reconstituer l'histoire de l'univers dans la pointe d'un stylo. Dans la pointe d'un stylo, il a vu des milliers de galaxies qui sont à différentes
Quand
époques.
Vous dites dans la pointe d'un stylo...
Alors vous prenez un stylo, vous le prenez à bout de bras. Et puis vous le pointez dans le ciel. Vous allez voir que vous allez cacher à peine une étoile. Mmh. Eh bien, là-dedans, on a trouvé des milliers de galaxies avec le télescope spatial Hubble et chacune contient des centaines de milliards d'étoiles. Ces galaxies se trouvent à différentes distances de nous et donc sont différentes pages du livre d'histoire que l'on remonte et qui nous racontent notre histoire.
Oui, parce que plus on remonte loin dans l'espace, plus on remonte loin dans le temps.
Loin dans le temps, exactement. Et donc, avec ce livre d'histoire dans la pointe d'un stylo à bout de bras, Hubble a permis aux scientifiques d'écrire des dizaines, des centaines d'articles. La question qu'on peut donc se poser est la suivante, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Or, Hubble nous a permis de voir le visible, pas l'invisible. Et dans la lumière, il existe toute une part d'invisible qui n'est pas accessible à nos yeux,
D'autres formes d'ondes.
D'autres formes d'ondes. Et en particulier, la lumière qui vient de très très loin dans l'univers, elle est décalée vers le rouge et l'infrarouge du fait de l'expansion de l'univers. Et donc Hubble, lorsqu'il regarde l'univers très lointain, il rate les premières sources de lumière, ou bien il ne voit que des étoiles, le rayonnement qu'on appelle ultraviolet des étoiles. Et donc, il est incapable, si on pouvait résumer ça, de distinguer un écureuil d'un éléphant. Parce que la différence entre un écureuil et un éléphant, c'est sa masse, c'est sa forme, etc. Or, la masse et la forme d'une galaxie vient de toutes les petites étoiles, pas de celles que voit Hubble. Avec le James Webb, on va voir non seulement ce qu'est un écureuil et ce qu'est un éléphant, mais on s'attend, parce qu'on a quelques indices de ça, à découvrir des galaxies qui sont des véritables dinosaures.
On va d'immenses galaxies n'imaginait même pas.
Qu'on n'imaginait même pas et qui sont nées très tôt dans l'histoire de l'univers. C'est ça qui est étonnant, parce qu'on pense qu'il faut du temps pour que les galaxies prennent du poids. Alors que dans l'univers, on s'aperçoit que certaines galaxies étaient massives très très tôt. C'est donc comme des dinosaures, il y a très longtemps. Et donc toute la question, c'est de même qu'en plongeant dans la Terre, les géologues se sont rendus compte qu'il y avait une transition entre le Crétacé et le Tertiaire, qu'il y a 65 millions d'années, il y a eu une extinction des dinosaures. Pareil. Quelle a été la cause de l'extinction de ces galaxies, de l'univers lointain? Est-ce que ce sont les trous noirs qui ont tué les galaxies? Ou est-ce qu'elles sont nées, elles sont mortes parce qu'elles ont été asphyxiées? Elles n'ont plus eu de réserve pour donner naissance à nouvelles étoiles? Comment sont-elles nées? Comment les galaxies ont-elles pris forme? Comment sont-elles devenues des galaxies spirales? Il y a eu une chute de la biodiversité dans l'univers. Aujourd'hui, les galaxies ont des formes magnifiques. On trouve des galaxies en forme de colibri, en forme de méduse, en forme de l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai mis dans mon livre tout un bestiaire des formes des galaxies que j'adore. Mais on s'est rendu compte qu'elles sont séparées en deux grandes familles aujourd'hui. Les spirales, qui forment des étoiles, et les elliptiques, qui ne forment plus d'étoiles, qui sont stériles. Avant, il y avait toute une variété de galaxies. Qu'est-ce qui a fait que les galaxies ont changé de forme? La chute de cette biodiversité pour ne faire que deux grandes familles? Pour l'instant, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on ne sait pas distinguer un écureuil d'un éléphant. Mais avec le James Webb, il est tout à fait possible que dès les premières images, on va voir apparaître sur les images des galaxies qui étaient dans des régions où il n'y avait rien. Donc, peut-être pas. Mais nous, on a des indices qui nous font penser que
dès les théoriques
et même observationnels, en combinant par exemple, il y a un observatoire qui s'appelle ALMA, qui contient 60 antennes de 12 mètres à 5000 mètres d'altitude dans le désert de Chajantor au Chili, et qui commence à percevoir ces objets-là. Si ce qu'on a commencé à voir est vrai, et c'est notre équipe d'ailleurs qui a découvert une partie de ces objets les plus massifs, alors le James Webb va les voir apparaître, et ça va être des images qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on pourrait prévoir à partir de Hubble. Ça c'est très intéressant. Et puis, voilà, tout un tas de choses.
Et est-ce que l'instrument, en particulier français, cet instrument d'imagerie que vous avez conçu dans votre laboratoire, est-ce qu'il participe, lui, de cette... comment il y participe,
oui, alors,
à cette nouvelle fenêtre?
C'est un instrument qu'on a conçu dans notre laboratoire. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, donc le concepteur, c'est Pierre-Olivier Lagache, qui a réussi d'ailleurs à faire admettre à la NASA d'ajouter cet instrument à une époque où on ne savait pas encore s'il allait avoir... On ne savait pas encore qu'on allait pouvoir détecter des exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Et puis, depuis l'initiation du projet James Webb... On connaît plus de 4000 exoplanètes. Et avec cet instrument, on va être capable de voir des molécules dans l'atmosphère de planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Il faut savoir que non seulement on sait qu'il existe d'autres planètes, on sait qu'il y a des vents dans les atmosphères de ces exoplanètes qui parfois se font éplucher de leur matière, qui perdent un peu de matière dans leur atmosphère. Et on sait qu'il y a des molécules, on voit de l'eau. Même avec Hubble, on a commencé à voir de l'eau dans des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. L'eau est partout dans l'univers.
Dans des exoplanètes, hors de notre système solaire.
Voilà. Mais pas de l'eau liquide, de l'eau dans l'atmosphère. Ce qu'on va chercher en particulier avec cet instrument MIRIM, c'est de voir la signature de molécules qui, si on les combine ensemble, pourraient commencer à nous aider à définir un diagnostic d'éventuelles signatures du vivant. Et ce qui est marrant avec le vivant, c'est que plutôt que d'être lié à une molécule particulière, c'est quelque chose qui brise les équilibres chimiques. En gros, le vivant, c'est ce qui fout la merde. Pour le dire vulgairement,
c'est ce qui met le désordre,
le bordel. Voilà. Et bien, il n'y a qu'à voir sur Terre. Et en fait, les premières...
<C'est pas>
Et donc, la vie, c'est ça. Et alors, on est à la recherche de biosignatures. Mais avec cet instrument, on ne va pas seulement voir ça. On va voir aussi, dans l'invisible, les macromolécules qui trahissent la naissance de nouvelles étoiles, enfouies dans leur cocon de poussière. Les étoiles naissent comme des papillons, dans des chrysalides de poussière. Elles sont totalement invisibles. Et du papillon va sortir une étoile qui va partir et se balader. L'étoile, c'est quand il y a des réactions nucléaires, c'est ça. Et puis les ailes, c'est qu'elle part et elle détruit son cocon. Mais tant qu'elles sont dans le cocon et qu'elles sont en train de naître, si on veut voir comment elles naissent, elles rayonnent dans les longueurs d'onde que va voir Myrim. Et donc, ça va nous permettre de voir, avec une finesse jamais atteinte,
la naissance
même des étoiles. Ça, c'est extraordinaire.
Magnifique. Je ne sais pas si vous êtes astrophysicien ou poète, peut-être un petit peu les deux, autour de la question jusqu'où nous entraînera le James Webb Télescope et l'instrument Myrim, cher David Elbaz. Nouvel éclairage d'une autre astrophysicienne, Nathalie Cabrol, directrice du Centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis, qui mène ses recherches justement sur la recherche d'intelligence extraterrestre en quête d'autres formes de vie et qui compte elle aussi beaucoup sur le James Webb Télescope. Elle nous expliquait ici même pourquoi et comment.
Je vais simplement poser une question un peu générale et lui demander qu'est-ce qu'il espère et comment il envisage la plus grande découverte du James Webb. Quel sera l'apport le plus important du James Webb pour la recherche des exoplanètes?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en attendez quelque chose,
oui,
du James Webb?
Oui, parce qu'on va pouvoir faire de la spectroscopie, enfin, et regarder dans les atmosphères et essayer de reporter les méthodes qu'on utilise en astrobiologie et qu'on développe. Trouver des schémas dans la présence de la vie, c'est très important. Et puis aussi essayer de démêler, de comprendre mieux l'environnement d'une exoplanète, parce que comme tout est une coévolution, il faut qu'on connaisse très très bien l'environnement pour essayer de comprendre si le signal qu'on voit est lié à l'environnement ou quelque chose d'extérieur à l'environnement qui pourrait être une pollution biologique. La vie produit elle-même des gaz, elle modifie son environnement. Et donc, par exemple, il y en a un qui est très compliqué, c'est le méthane. La vie produit du méthane, par exemple. Mais la géologie, comme les éruptions volcaniques, produisent aussi du méthane. Et vous avez aussi des processus cosmiques, qui est l'interaction des rayonnements cosmiques avec de la glace sur un corps glacé comme une comète, etc., qui aussi produisent du méthane, parce qu'ils dissocient le carbone, l'hydrogène, etc., ça se recombine. Donc c'est pas tout simple. On n'a pas encore, à l'heure actuelle, ce qu'on appelle des biosignatures qui soient définitives. Alors, pour arriver à ça, il faut qu'on connaisse très très bien l'environnement. C'est une équation à deux inconnues, et pour s'en sortir, il faut qu'on arrive à au moins avoir une des deux inconnues, qu'on la connaisse à peu près bien.
Vous êtes d'accord avec Nathalie Cabrol, David Elbaz, le James Webb, en imageant, en caractérisant l'atmosphère des exoplanètes, répondra au moins à l'une de ces deux inconnues?
Alors, effectivement, en imageant et en faisant de la spectroscopie, c'est-à-dire en décomposant la lumière pour aller chercher justement ces fameuses molécules, le méthane et autres. Et ce qui a été très très bien dit, c'est qu'effectivement, on a cru à une époque que le méthane, l'ozone, la phosphine, des molécules clés allaient être la signature ultime de la présence de vie. Et puis, en réalité, on se rend compte que chacune d'elles peut s'expliquer autrement et que c'est plus complexe. Donc, effectivement, on va être à la recherche de diagnostics complexes, d'influence de la vie. Et ce dont on s'est aperçu, justement, c'est qu'il y avait aussi toute une variété d'exoplanètes, certaines qui sont près, d'autres loin de leurs étoiles, qui vont migrer au cours du temps, qui vont aller prendre de l'eau loin du système solaire avant de venir plus près de leur étoile. On a trouvé des planètes qui étaient trop près de leur étoile pour avoir une telle quantité d'eau, et donc on pense qu'effectivement elles l'ont collectée ailleurs ou qu'elle a été apportée ailleurs. Donc il y a toute une panoplie de questions qu'on se pose, et donc on est vraiment aux premières étapes pour essayer de savoir si on pourra savoir s'il y a de la vie. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a cru détecter de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Mmh. Alors, ça s'est révélé être une précipitation. On s'est précipité, puisqu'en réalité, la détection était fausse. Bon. Mais même s'il y avait eu une détection de phosphine qui a fait la une des journaux, etc., eh bien, ça ne prouve pas qu'à elle seule, la vie existe. Et donc, il faut enrichir notre palette de signatures chimiques et physiques si on veut comprendre tout ça. Mais il faut s'attendre à des surprises. Par exemple, quand Michel Mayor a découvert la première exoplanète, ses collègues lui ont dit « tu ne devrais pas en parler ». Pourquoi ? Parce que la planète qu'il a trouvée ne devait pas exister selon ce qu'on savait. C'était une planète massive, Et or, les planètes les plus massives naissent à partir de la coagulation de plein de glaçons. Et elle était tout près de son étoile, là où les glaçons sont complètement évaporés. Donc c'était impossible. Et donc, il a dit, mais quand même, je l'ai vue. Et elle passait devant son étoile à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait attendu. Et donc, il le publie, puis après, on a compris qu'en réalité, ça venait du fait que les planètes bougeaient. Elles changeaient d'orbite. Et donc là, on a le conflit entre ce qu'on attend et qui conditionne notre regard, et puis ce qu'on voit et qui vient de l'univers qui nous parle et qui parfois nous surprend. Serons-nous capables, avec le James Webb, de voir les choses telles qu'elles sont, même si elles ne sont pas exactement dans l'ordre de ce qu'on attend? Ça, c'est un défi.
De ne pas plaquer
nos théories. Parce que on a des attentes, c'est normal. On va chercher des signatures d'un tel ou tel type. Mais est-ce qu'on n'aura pas une surprise analogue à celle de Michel Mayor, qui était extraordinaire et qui a eu le courage de publier quand même, et puis bon, bien sûr, récompensé par le prix Nobel, mais c'était quand même surprenant. Et moi, c'est ce que je préfère finalement, et c'est ce qu'on attend tous indirectement.
Quelque chose qui soit complètement, oui, qui déstabilise, qui
voilà,
déstabilise.
On veut
tout.
Des surprises.
Quelle serait la plus grande surprise? Est-ce que vous pensez d'ailleurs, enfin, là c'est vraiment, on n'en est qu'aux hypothèses, mais vous, David Elbaz, vous pensez que de votre vivant, de notre vivant, on détectera des traces de vie ailleurs, que le James Webb verra?
Alors, c'est un grand débat, parce que certains scientifiques se disent, oh ben, il y a eu tellement de hasard pour arriver à la vie sur Terre qu'on peut se demander si ces conditions sont reproduites ailleurs. Alors justement, c'est aussi ce que je dis dans mon livre, c'est que finalement, la vie répond à une propension naturelle de l'univers de s'organiser et que ça me donne à penser que la vie existe ailleurs. Et est-ce qu'on le verra de notre vivant? J'espère. Parce que vraiment, c'est le rêve, en tout cas pour moi, de voir la preuve de vie ailleurs, et encore plus grand rêve, ça serait de voir que cette vie s'est développée, éventuellement, encore plus dingue de pouvoir communiquer avec des extraterrestres. Imaginez, plutôt que de se casser la tête à fabriquer des satellites, à réfléchir pendant des années, vous trouvez un type qui a déjà fait ça depuis des siècles et vous lui posez la question, dis-moi, j'ai 10 questions, donne-moi les réponses. Tout ça, bien sûr, c'est des rêves. D'ailleurs, je raconte certains rêves dans mon bouquin, mais
c'est important, les rêves.
Je pense que c'est important de rêver. Quand vous voulez envoyer une pierre très loin, vous visez le ciel. Donc, avec le James Webb, on vise le ciel. Eh bien, autorisons-nous à rêver. Oui, moi, je crois qu'on verra des signes de vie dans les années à venir. Et si je me trompe, c'est pas grave. Au moins, on aura essayé.
Au moins, on aura essayé. Au moins, on aura rêvé. Et au moins, on se sera arrêté sur cette beauté sidérale, sidérante de l'univers. C'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Hein. Pourquoi l'univers est-il si beau? Et à toutes les échelles, avant de laisser nous dévoiler l'ordre, le désordre et surtout la plus belle ruse de la lumière, je propose de commencer par nous plonger dans la beauté en version musicale, signée Ariane Moffat sur RFI.
Changer le sommeil.
Ariane Moffat, beauté sur RFI. Autour de la question « Pourquoi l'univers est-il beau ?» Question ouverte par vous et dans votre ouvrage, David Elbaz, « La plus belle ruse de la lumière » qui vient de paraître aux éditions Adil Jacob et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, astronomes et amateurs de beauté, c'est à travers la lumière que se dévoile à nos yeux et aux vôtres d'astrophysiciens à toutes les échelles, grâce notamment aux puissants télescopes, l'incroyable beauté de l'univers. C'est ça la plus belle ruse de la lumière.
Alors, c'est vrai que d'une part, on pense à toutes les découvertes scientifiques qu'a fait Hubble et dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on réalise que ce qui a peut-être le plus marqué les esprits, aussi bien des spécialistes que des profanes, c'est la beauté de l'univers qui a été révélée par Hubble. Alors, d'une certaine manière, cette beauté, elle est artificielle parce qu'elle a été... ce sont des zones du ciel particulières qui ont été choisies, avec des couleurs qui ont été trafiquées un petit peu.
On revisite ces images, on les retraduit. Etc.
Donc voilà. Mais en même temps, cette beauté qui nous apparaît reflète le fait que l'univers n'a cessé de s'organiser depuis le Big Bang et que ces formes qu'on voit, elles sont riches d'organisation, de complexité, de particularité.
Mais vous dites l'univers n'a cessé de s'organiser depuis le Big Bang. Oui. Or, j'ai entendu dire, et c'est ce qu'on nous apprend, que l'univers va vers de plus en plus de désordre.
Voilà. Alors c'est ça qui c'est une des motivations de mon livre, c'est d'essayer de réconcilier la science avec ce que nous voyons en tant qu'astronomes qui collectons des particules de lumière. Alors il faut bien préciser que la lumière qu'on reçoit du spot dans ce studio, dans le domaine visible que nos yeux peuvent capter, c'est une forme de lumière, mais les particules de lumière, les photons, certains sont dans l'infrarouge, comme ceux qui ont été découverts par William Herschel le mardi 11 février 1800, d'autres dans les rayons X, découverts par Wilhelm Röntgen en 1895, d'autres dans la radio. Et donc, il y a toute une palette comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, ce que dit la physique, ce n'est pas que le monde va vers plus de désordre. En fait, c'est une simplification qu'on a employée. En réalité, il va vers un terme qui est un peu compliqué, qui s'appelle l'entropie. Alors, d'une certaine manière, dans mon compte en banque, si j'ai de l'argent, je peux faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle l'énergie. Si j'ai beaucoup d'énergie, je peux faire plus de choses. Si je suis un sportif, j'ai beaucoup d'énergie, je peux faire plus de choses que si j'ai peu d'énergie, je suis fatigué. Ça, c'est l'énergie. L'entropie va dire quelle chose on va faire. Donc, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je sais si je m'achète une voiture ou une maison. Donc, l'entropie va dire dans quelle direction on va aller. Et donc, elle nous parle du temps, du sens de l'écoulement du temps. Et ça, c'est vraiment une variable fondamentale. Or, ce qu'on a constaté, c'est que l'univers allait toujours vers les états les plus riches, les plus multiples, les plus variés, le plus grand nombre d'arrangements possibles de la matière. Alors, si on regarde que la matière... c'est le désordre, parce qu'il y a plus de façons d'organiser la matière en désordre que de les arranger dans une ligne, par exemple, si je prends des billes.
Donc le désordre, c'est-à-dire que l'univers, avec son énergie, va vers de plus en plus de matière, dans tous les sens.
Dans tous les sens, ça serait si on prend que la matière. Néanmoins, la matière a la capacité d'augmenter le nombre de particules, de quantas d'énergie, et ça, on l'a découvert avec Einstein, c'est son papier de juin 1905, et il a eu son prix Nobel par ses articles de 1905, pas pour la relativité, mais pour avoir découvert que les quantas d'énergie, la lumière, les photons, permettaient à la matière de se libérer de son agitation. Et donc, l'entropie augmente non pas par le désordre, mais par la production de lumière des étoiles. Une étoile crée de l'entropie et nous-mêmes créons de l'entropie.
C'est-à-dire la matière dégage de plus en plus de lumière, entre guillemets, de lumière.
Voilà. Et donc, on crée plein de morceaux d'énergie, du E égale MC, de l'énergie, sous la forme de photons. Et ces photons, à chaque fois que, sur mon télescope, je capte de la lumière qui vient des confins de l'univers, cette lumière a porté avec elle toute l'agitation de la matière et qu'elle a amené un peu partout dans l'univers. Mmh. Et mais qu'est-ce qui est arrivé à la matière qui, elle, a perdu cette agitation? Elle s'est calmée, elle a pris forme. Et donc, on est en train de voir les éclats de matière qui sortent du bloc de roche d'un rodin qui est en train de sculpter. Et puis, va émerger un visage avec un nez, des yeux, des cheveux, un visage de plus en plus fin à mesure qu'on enlève et qu'on enlève cet excès de matière ou d'énergie. Et la lumière, c'est ça. C'est le rôle du burin dans l'univers qui sculpte les formes dans l'univers.
Donc la lumière, elle sculpte le désordre en ordre.
Exactement.
Quelque chose comme
la lumière est la sculptrice de l'univers qui lui permet de prendre forme parce qu'elle enlève l'excès d'énergie.
Donc c'est la lumière qui révèle la beauté ou qui...
C'est ça. La beauté n'existerait pas sans la lumière. Et je vais vous donner un exemple pour laquelle, qui fait penser à ça. C'est qu'on pense qu'il existe une forme de matière qui n'est pas capable de rayonner de la lumière. Alors on l'appelle la matière noire.
La fameuse matière noire.
Eh bien, cette matière noire, quand on la met dans nos ordinateurs, elle est incapable d'engendrer des formes complexes. Elle ne fait que des blobs, des espèces de blobs qui sont tous universels. On appelle ça le profil universel à matière noire. C'est-à-dire que si vous prenez un blob de matière noire à droite et un blob de matière noire à gauche, c'est les mêmes. C'est ça...
Donc pas de beauté, pas de singularité, voilà. Pas de...
Voilà. Alors on peut critiquer le terme de beauté parce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de définition de la beauté en science. Alors permettez-moi de prendre l'inverse et de vous dire, eh bien moi je vais vous définir ce qu'est la mocheté. La mocheté en science, ce sont des blobs de matière noire qui sont tous les mêmes. Okay. Ils sont moches parce qu'ils n'ont pas de particularité. Ce qui fait notre beauté, si vous regardez votre côté droit et côté gauche de votre visage, vous savez, on a fait tous l'exercice, c'est la symétrie, c'est toutes les différences, etc. C'est ça la richesse de la, sur Terre et partout dans l'univers. Eh bien ça, c'est né de la lumière.
Alors je propose d'écouter... un extrait d'une conférence de François Cheng, poète, académicien, écrivain, penseur de la poésie chinoise, de la peinture chinoise, parce que vous le citez d'ailleurs hein, dans votre ouvrage, c'est lui qui vous a fait réfléchir hein, dans ses 5 méditations sur la beauté. François Cheng dit, et là c'est vous qui le citez, David Elbaz, l'univers aurait pu ne pas être beau et pourtant il l'est. Alors je vous propose d'écouter l'extrait d'une conférence qu'il a donnée en février dernier, disponible sur YouTube, si vous voulez la regarder. L'œil ouvert et le cœur battant, titre de cette conférence, comment envisager et dévisager la beauté? La beauté n'est-elle qu'un ornement, un superflu ou au contraire une nécessité vitale au fondement même de notre être? Comment envisager et dévisager la beauté? Piste d'interrogation et de réponse magistrale de François Cheng.
Est-ce à dire que, par rapport à l'univers vivant, et à sa beauté, nous sommes condamnés à rester éternellement en face, à l'extérieur. Une ultime interrogation nous assaille. Nous sommes sensibles à la beauté, mais l'univers, lui, reste apparemment indifférent. Comment expliquer ce paradoxe ? Nous tombons en extase devant tel paysage, tel arbre, telle fleur. Eux-mêmes s'ignorent et nous ignorent superbement. Sommes-nous enfermés dans notre subjectivisme bien vain, pour ne pas dire ridicule? Il y a peut-être une autre compréhension possible. Pour la cerner, il me faudrait faire un très bref détour par la peinture chinoise. On y admire de grands rouleaux représentant de grands paysages, mais avec toujours au-dedans un ou plusieurs petits personnages placés à un point privilégié du tableau et en train de jouir du paysage. On s'aperçoit qu'il en est le point névralgique. Il est, pour ainsi dire, le pivot autour duquel tourne le paysage, de sorte que le paysage devient son paysage intérieur. Si l'on se met dans cette posture, on peut admettre que l'homme a été fait justement pour être le cœur battant et l'œil éveillé de l'univers vivant, et non cet être déraciné, éternellement solitaire, qui dévisage l'univers de l'extérieur. Si nous sommes capables de penser l'univers, c'est parce que l'univers pense en nous. Notre existence n'est plus cette aventure absurde et futile entre deux poussières. Elle jouit d'une perspective ouverte. Dans cette optique, notre regard qui perçoit la beauté et notre cœur qui s'émeut de la beauté donne un sens à ce que l'univers offre comme beauté et du même coup, l'univers prend sens et nous prenons sens avec lui.
François Cheng, le poète, l'académicien, l'écrivain, c'est pour vous, David Elbaz, parce que je trouve que ça fait extraordinairement écho. Vous êtes un peu le cœur battant et l'œil éveillé de l'univers à vos travaux, à vos réflexions sur la lumière, sur la beauté, sur la plus belle ruse de la lumière.
Oui, alors ça pose une très bonne question. D'ailleurs, ça me fait réaliser que je n'ai pas tout à l'heure répondu à votre question sur pourquoi ruse. Et donc, par rapport à ce que dit François Cheng, je trouve que c'est très beau ce qu'il dit et il est en train de souligner le fait que la beauté, il l'écrit dans ses 5 méditations sur la beauté, que la beauté reste un mystère. Et là, on sent qu'il parle de possible interprétation de ce mystère. Alors, que vient faire un scientifique dans cette réflexion sur la beauté, le mystère de la beauté, avec ses outils qui sont rudimentaires pour aborder un problème qui est fondamental, métaphysique
et existentiel,
etc. Et de quel droit un scientifique peut-il parler de cela? Alors, François Cheng a dit une phrase, il a dit aussi, dans son texte qu'il a écrit, « L'univers aurait pu ne pas être beau, et pourtant il est beau. Mm-hmm. » Et c'est là où je me suis posé la question suivante. Enfin, je me l'étais posé, mais ça m'a permis de la formuler autrement. Au-delà de la question de l'intention qu'il pourrait y avoir dans l'univers, qui, elle, ne m'est pas accessible, je peux me poser la question de savoir s'il y a une tension. Parce que tout ce qui fait bouger les choses, et on parle de s'émouvoir au niveau des émotions, mais pour la matière, on parle de se mouvoir. Et ce qui fait mouvoir la matière pour aller dans un certain sens, c'est souvent des tensions. Y existait-il une tension, on dira peut-être aussi une propension, de l'univers à engendrer des formes que l'on va caractériser comme belles, qui vont être plus riches et qui sont distinctes de la matière noire? Et c'est ça justement que j'essaye de souligner dans mon livre, c'est que oui, il existe une tension, il existe une propension de l'univers à s'organiser et à faire des structures de plus en plus complexes. Et dans la chaîne de progression de cette structuration de l'univers, la vie est la plus belle ruse de la lumière pour se multiplier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que vous soyez un atome et que vous ayez la liberté de vous distribuer au hasard dans l'univers, et donc vous partagez le désordre de l'univers. Mmh. Ou bien d'aller dans le soleil, ou bien d'aller sur le bout de mon nez. Quelle place choisirez-vous si votre objectif, c'est d'augmenter la fameuse entropie, ou dit autrement, d'engendrer le plus possible de lumière? Alors on pourrait penser au soleil, parce que le soleil est une source de lumière. Mmh. Et ce qui est troublant, c'est qu'à chaque seconde, 1 kg d'être humain, parce qu'il faut ramener ça à la masse, 1 kg... engendre 200 000 fois plus de lumière qu'un kilogramme de soleil.
La vie engendre beaucoup
la
plus.
La vie engendre beaucoup plus de lumière que ça. C'est-à-dire que s'il y a une propension dans l'univers, une tension, de même qu'il y a une propension de l'eau à couler du haut vers le bas, s'il y a une propension de la matière à s'organiser de sorte à créer de l'entropie sous la forme de lumière, ce qui est ce que la physique dit, alors il est naturel qu'émerge la vie. Parce qu'elle est beaucoup plus efficace à faire de la lumière que le soleil. Bien sûr, le soleil, si mon nez avait la masse du soleil, alors là, il rayonnerait 200 000 fois plus de particules de lumière que le soleil. Il me faudrait un énorme mouchoir, ce n'est pas le truc que je souhaite, j'ai du mal à respirer des fois la nuit, etc. Donc, oublions ça. Et quand je parle de mon nez, ça peut être un serpent, un éléphant, une vache, une girafe, je parle d'un kilogramme de vivant. Et c'est ça qui est, pour moi, proprement troublant et émouvant, c'est que finalement, la vie répond, s'inscrit dans une histoire qui a commencé avec la prolifération de la lumière et qui arrive avec la prolifération des bactéries. Pourquoi je parle de ruse? Parce que quelque part, c'est un peu comme si la lumière, discrètement, on oublie son rôle, a trouvé une astuce pour se multiplier sans jamais qu'on se rende compte que c'était elle qui était aux commandes.
C'est ça, hein, parce que la lumière, finalement, elle sculpte tout, mais sans le montrer. Et donc, du coup, on est bien d'accord, on ne parle pas d'intention, on parle de tension.
Voilà.
De tension vers la vie, de tension vers... plus
exactement.
En plus de lumière, plus en plus de beauté, finalement, voilà. On pourrait y rêver à ça. Hein.
Exactement. C'est, pour moi, c'est très important de le dire aujourd'hui, à une époque où certaines interprétations un peu trop simplistes de la physique vont dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, les crises planétaires, etc., est une résultante naturelle d'un monde qui tend vers le chaos. En réalité, non. Nos actions sont fondamentales. On peut lutter contre le réchauffement climatique. C'est bien sûr que c'est difficile, bien sûr qu'il faut s'y mettre à plusieurs, etc. Mais ce qui s'inscrit dans la logique de l'histoire de l'univers, ce qui s'inscrirait le mieux dans la logique de l'univers, n'est pas la catastrophe et la fin de tout. C'est autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi ? Ça serait qu'on continue, qu'on prolonge ce mouvement de structuration et d'organisation en agissant ensemble à l'échelle planétaire.
C'est ça.
Puisqu'on voit bien qu'un pays ne peut plus agir. Alors, on peut se dire... mais
en agissant collectivement, collectivement, la vie, le vivant. Vous parlez d'éphémètres.
Oui.
Être
oui,
vivant.
Nous sommes des éphémètres vivants. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres vivants éphémères. Et nous réalisons peut-être encore mieux notre propension naturelle... quand nous agissons ensemble et nous nous inscrivons dans cette logique qui a commencé à 13,8 milliards d'années. Donc, mon espoir, c'est que finalement, nous sommes en train de vivre une transition, comme il y en a eu à différentes époques, qu'on a pu appeler des cataclysmes, et qui sont des évolutions, bien sûr, liées au hasard, mais avec une propension. Hasard et nécessité ne sont pas en contradiction.
On est d'accord, avec une propension,
une tension.
Vers plus de vie, voilà. Plus de beauté, plus de collectif, c'est le meilleur qu'on pourrait se souhaiter et qu'on a envie de se souhaiter. Donc on se rend compte que vous êtes astrophysicien, que vous êtes quand même un peu aussi poète, que vous écrivez des livres magnifiques, notamment La ruse de la lumière, mais pas seulement, alors je ne sais pas, à vos heures perdues, je ne sais pas quand trop d'ailleurs. Vous concevez aussi des spectacles pour des danseurs et pas n'importe lesquels. Il y a Pietragala, Marie-Claude Pietragala, entre autres. Un spectacle dansé qui a été joué, qui va être rejoué. Écoutons voir ce que ça donne en musique. Alors, c'est une musique planante, hein, composée par Maurizio Piccoli. Un petit coup de quoi ? De la naissance d'une étoile, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est une musique qui accompagne une nébuleuse qui tourne, qui va donner naissance à une étoile dans laquelle émerge une danseuse, Danielle Alnouma, qui tourne sur elle-même comme un derviche tourneur. Et on le voit tout ça en 3D dans le spectacle, c'est magnifique.
Danse des galaxies, on y prête l'oreille sur RFI. On a presque envie de danser et de tournoyer avec les étoiles et les galaxies. David Elbaz, tous les moyens sont bons pour faire passer la ruse de la lumière, la beauté de l'univers, tout ce que vous travaillez et présentez aussi.
Oui, parce que en fait, je me suis aperçu que quand on présente la science de manière un peu trop objective, directe, les gens attendent des réponses. Or, nous, entre scientifiques, ce que nous partageons le plus, ce sont des questions qui nous aident à vivre. Et c'est très difficile de partager cette fameuse tension, cette question pour essayer de comprendre, pour avancer dans l'inconnu. L'art, c'est la même chose. C'est qu'on essaye de créer, on reconnaît, on sait qu'on n'est pas dans un monde qu'on comprend complètement. On sent quelque chose, etc. Or, ce moment-là qui est entre l'obscurité et la lumière, ce moment de création, c'est ça aussi qu'on a envie de partager parce que c'est ça qui nous passionne le plus. C'est le moment où on fait émerger une idée. Par exemple, on parlait tout à l'heure du James Webb. C'est le moment où on va être surpris et pas le moment où on a tout prévu. Et donc, la science, c'est aussi l'art de vivre dans la tension de la question.
De ne pas vouloir à tout prix accoler une réponse, hein,
voilà.
C'est ça.
Parce que la réponse, c'est pratique pour dormir. Effectivement, ça aide à dormir. Mais la tension de la question, c'est ça qui aide à vivre.
C'est vertigineux. Et puisque vous aimez tant les questions, je ne résiste pas à vous proposer quelques questions qui vont fuser, jaillir. Ce sont celles d'élèves d'une classe primaire en Seine-Saint-Denis, à qui l'un de nos reporters scientifiques, Jérémy Bazard, en collaboration avec l'institutrice de cette classe de CE2, avait proposé il y a quelques années un atelier lumière. Écoutez voir quelles questions vont justement fuser chez ces élèves de CE2.
Pourquoi la lumière va vite? Comment nous voyons les photons? Pourquoi en une seconde la lumière elle fait le tour du monde? Pourquoi le miroir après ça reflète dans la lumière puis après ça met de la lumière dans le plafond? Comment la lumière a existé?
Ça s'appelle comment celui qui a inventé la lumière?
Comment on peut attraper les photons?
Vous allez les embaucher, hein, j'imagine, dans votre laboratoire.
C'est beaucoup de questions très intéressantes, qui ont l'air simples et naïves. Et puis, on se rend compte qu'il a fallu toute l'histoire de l'humanité pour commencer à avoir des éléments de réponse à ces questions. Comment s'appelle celui, par exemple, qui a découvert qu'il y avait ces quantas d'énergie qu'on appelle la lumière? Il s'appelle Albert Einstein, donc ce n'est pas le plus idiot de tous les scientifiques, on peut l'imaginer. Même s'il a imaginé le concept en 1905, le nom de photon est arrivé en 1920. Il faut savoir que des expériences ont été faites sur l'œil humain et on s'est aperçu que l'œil humain était capable de détecter un photon individuel. L'expérience a été faite en demandant à celui qui reçoit ce photon d'appuyer sur un bouton s'il a le sentiment, la sensation qu'un photon est arrivé, parce qu'il ne le voit pas vraiment. Et le scientifique lui-même qui écrit l'article explique « J'ai fait l'expérience et j'avais comme une sorte d'intuition de quelque chose et j'appuyais. Et puis statistiquement, ça montrait que ce n'était pas le hasard. J'avais vraiment détecté le photon plus que ce que serait la détection au hasard. » Et c'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'il a capté quelque chose qui est très subtil, juste un photon, et qui est dehors d'intuition. Et c'est un peu ça qu'on vit quand on est avant de voir la lumière dans la connaissance. On est dans ce moment-là où on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas bien le nommer, etc. Par exemple, Cédric Villani disait, j'étais à une de ses conférences récemment, où il disait « J'ai écrit un article avec mon étudiant, grâce auquel j'ai eu la médaille Fields. Il faut savoir que la première version de l'article était fausse, puis après, on s'en est rendu compte, on l'a corrigé. » Mais pourquoi il a pu arriver? Parce qu'il avait quand même peut-être cette intuition. Voilà. Et que finalement, on se rend compte que parfois, on a une intuition de quelque chose qui est juste et on se dit, mais si c'était vrai, ça se saurait. Et il y a des phrases comme ça qui sont castratrices de la pensée.
Qu'il faut enlever de son vocabulaire.
Il faut enlever de son vocabulaire. Toute personne qui écoute ce qu'on dit là, maintenant, peut avoir des idées profondément géniales et peut changer sa façon de voir le monde à tout moment. Et le monde va se transformer parce que quand on le regarde différemment, il est différent. Ce n'est pas de la magie. Et donc, pour moi, ça, c'est fondamental de partager ça, de garder ce regard des enfants naïfs qui pensent que tout est possible. J'aime bien cette phrase. Il y a un tout possible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, même si tout n'est pas possible.
Il y a un tout possible. Ça va être notre phrase de conclusion. Merci infiniment, David Elbaz, d'être venu partager un peu de vos intuitions, beaucoup de vos recherches, un peu de la beauté de l'univers et de la ruse de la lumière. C'est le titre de cet ouvrage merveilleux, vertigineux, que vous venez de publier aux éditions Andy Jacob, qui est simple et agréable à lire, j'en suis la preuve, et dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Bon, on croise les doigts pour le lancement du James Webb Télescope. Nous, on sait qu'on aura notre Simon Rosé, journaliste scientifique à RFI, qui sera pour le lancement.
Super.
Le 22. Et puis vous serez le 22 décembre probablement, et vous serez probablement à Paris pour le commenter, ou à Kourou, David Elbaz.
Voilà, c'est probable.
Merci beaucoup. À bientôt. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. On se retrouve même planète, même heure lundi prochain, si vous le voulez bien, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Caroline Nachowski au micro pour vous servir autour de la question, pourquoi les mathématiques n'ont pas de frontières? De Paris à Yaoundé, de Brasilia à Tirana, en passant par New York et Kigali, en compagnie de deux mathématiciens et mathématicienne engagée, la française Laure Saint-Raymond et le Camerounais Mama Fupunyanini. Merci de votre fidélité et de votre interactivité, chers amis auditeurs et auditrices, surtout restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose